Ivan Sergeïevitch Turgeniev, journal d'un homme de trop. Traduit du russe par Louis Viardot en collaboration avec l'auteur, 1850. Le médecin me quitte. Je l'ai obligé à s'expliquer enfin. Il a eu beau dissimuler, il lui a fallu me confesser toute la vérité. Je vais mourir. Oui, je vais mourir bientôt. Les rivières vont dégeler, je m'en irai probablement avec les derniers glaçons. Où irai-je? Dieu le sait. À la mer aussi. Eh bien quoi? S'il faut mourir, autant vous mourir au printemps. Mais n'est-il pas ridicule de commencer un journal, peut-être 15 jours seulement avant l'heure de la mort? Qu'est-ce que cela fait? En quoi 15 jours diffèrent-ils de 15 ans, de 15 siècles? En face de l'éternité, tout est néant, dit-on. Soit, mais dans ce cas, l'éternité même n'est que néant. Il me semble que je tombe dans la métaphysique. C'est mauvais signe. Aurais-je peur? Mieux vaut raconter quelque chose. Le temps est humide, le vent souffle avec violence. Il m'est défendu de sortir. Que raconterais-je? Un homme bien élevé ne parle pas de ses maladies. Écrire un roman n'est pas de mon ressort. Raisonner sur de graves sujets est au-dessus de mes forces. La description des objets qui m'entourent ne m'offrirait aucun plaisir. Ne rien faire est ennuyeux, lire me fatigue. Ah, je vais me raconter ma propre vie. Quelle bonne idée! Cette revue de soi-même est chose convenable avant la mort et ne peut nuire à personne. Je commence. Je suis né il y a 30 ans d'une famille de propriétaires aisés. Mon père était un terrible joueur. Ma mère, une femme de grand caractère et très vertueuse, mais je n'ai jamais connu de femme dont la vertu causa moins de plaisir. Elle s'affaissait sous le poids de ses mérites et en fatiguait tout le monde, à commencer par elle-même. Pendant les 50 années de sa vie, elle ne se reposa pas une seule fois. Elle ne se croisa pas une seule fois les bras. Elle travaillait et s'évertuait comme une fourmi, mais sans aucune utilité. Ce que nul ne dira d'une fourmi. Un ver infatigable la rongeait nuit et jour. Une fois seulement, je la vis parfaitement tranquille, et cela dans son cercueil le lendemain de sa mort. Aussi son visage me semblait-il vraiment exprimer un silencieux étonnement. On aurait dit que ses lèvres à demi fermées, ses joues creuses et ses yeux paisiblement immobiles respiraient ces paroles « Qu'il fait bon ne pas bouger !» Oui, certes, il est bon de se dépouiller, enfin, de l'accablante conscience de la vie, de la sensation continue et inquiète de l'existence. Je grandis mal et sans joie. Mes parents me témoignaient de la tendresse, mais la vie ne m'en était pas plus douce. Ouvertement adonné à un vice dégradant et ruineux, mon père n'avait aucune autorité dans sa propre maison. Il reconnaissait son abjection, mais n'ayant pas la force de renoncer à la passion qui le dominait, il cherchait du moins à mériter l'indulgence de sa femme par une soumission à toute épreuve. Ma mère supportait son malheur avec cette magnifique et fastueuse longanimité de la vertu dans laquelle respire tant d'orgueil et d'amour-propre. Elle ne faisait jamais de reproches à mon père. Elle lui donnait silencieusement le fond de sa bourse et payait ses dettes. Présente ou absente, il la portait au nu, mais il n'aimait pas rester à la maison et il ne me caressait qu'en secret à la dérobée, comme s'il eût craint de me porter malheur. Ses traits altérés avaient alors une telle expression de bonté, le rire fiévreux qui errait sur ses lèvres se changeait en un sourire si touchant, ses yeux bleus entourés de rides fines s'arrêtaient avec tant d'amour sur moi que je pressais involontairement ma joue contre sa joue humide et chaude de larmes. J'essuyais ses larmes avec mon mouchoir. mais elle recommençait à couler, sans effort, comme l'eau déborde d'un vase trop plein. Je me mettais aussi à pleurer, et il me consolait. Il pressait mes mains entre les siennes, et ses lèvres tremblantes me couvraient de baisers. Voilà déjà plus de 20 ans qu'il est mort, et pourtant, chaque fois que je pense à mon pauvre père, les sanglots muets me montent au gosier, et mon cœur bat dans ma poitrine, et il bat avec tant de chaleur et d'amertume, il est accablé d'une si douloureuse compassion qu'on croirait qu'il lui reste encore longtemps à battre et à regretter. Ma mère, au contraire, était toujours la même pour moi, bienveillante mais froide. On rencontre souvent dans les livres écrits pour les enfants des mères toutes semblables, morales et justes. Elle m'aimait, mais je ne l'aimais pas. Oui, j'évitais ma mère vertueuse, et j'aimais passionnément mon père vicieux. Mais c'est assez pour aujourd'hui. Le commencement est fait. Quant à la fin et à ce qui en adviendra, je ne m'en inquiète guère. C'est l'affaire de ma maladie. Mars. Le temps est magnifique aujourd'hui, il est chaud et serein. Le soleil se joue gaiement sur la neige qui fond. Tout reluit, fume et se dissout. Les moineaux crient comme affolés autour des haies sombres et humides. Un air tiède m'irrite la poitrine et me cause une sensation à la fois douce et pénible. Le printemps arrive. Je suis assis à la fenêtre, mon regard franchit la rivière et se repose sur les champs. Ô nature, nature, je t'aime, quoique je sois sorti de ton sein incapable de vivre. Voilà un petit oiseau qui déploie ses ailes et sautille. Il crie et chaque vibration de sa voix, chaque petite plume ébouriffée de son corps mignon, respire la santé et la force. Que s'ensuit-il? Rien. Il se porte bien, il a le droit de crier, de secouer ses plumes. Et moi, je suis malade et je dois mourir, voilà tout. Ce n'est pas la peine de s'y arrêter davantage. Ces larmoyantes invocations à la nature sont ridicules à l'excès. Revenons à notre récit. Comme je l'ai dit, je grandis péniblement et sans joie. Je n'avais ni frère ni sœur. On m'élevait à la maison. De quoi se serait donc occupée ma mère si on m'avait mise en pension ou envoyée dans un établissement public? Les enfants sont là pour empêcher les parents de s'ennuyer. Nous demeurions habituellement à la campagne et n'allions à Moscou que de temps à autre. J'avais des précepteurs et des maîtres selon l'usage. Je me souviens surtout d'un Allemand maigre et pleurnicheur du nom de Rickmann. Cet être extrêmement triste et maltraité du sort se consumait inutilement à regretter sa patrie lointaine. Plus d'une fois, tandis que dans la froide chaleur d'une antichambre étroite, tout infectée de l'odeur aigre du kvass, mon vieux menin Basile, surnommé Loi Mâle, jouait aux cartes avec le cocher Potape, vêtu d'une pelisse de boutons toute neuve, et chaussé de ses grandes bottes frottées de goudron. Plus d'une fois, dis-je, Rickmann chantait derrière la cloison. « Cœur, mon cœur, pourquoi si triste? Qu'est-ce qui t'oppresse si fort? La terre étrangère est si belle. Cœur, mon cœur, que te faut-il encore ?» Nous nous établîmes à Moscou après la mort de mon père. J'avais alors 12 ans. Mon père mourut une nuit d'un coup d'apoplexie. Je n'oublierai jamais cette nuit-là. Je dormais de ce profond sommeil dont dorment habituellement tous les enfants, mais je me rappelle que j'entendais même à travers ce sommeil un ronflement pénible et pareil à un râle. Je sens tout à coup que quelqu'un me saisit par l'épaule et me secoue. J'ouvre les yeux, mon menin est devant moi. « Qu'y a-t-il ? Venez, venez, Alexis Mikhailovitch meurt. » Je me jette comme un fou à bas de mon lit et m'élance dans la chambre de mon père. Il était couché, la tête renversée en arrière, le visage tout rouge, et il râlait avec effort. Les domestiques se pressent à la porte avec des mines effarées. Une voix enrouée demande dans l'antichambre si on a envoyé chercher le médecin. J'entends les pas lourds du cheval qu'on fait sortir de l'écurie pour le conduire dans la cour. La porte cochère crie sur ses gonds. Une chandelle brûle par terre sur le plancher de la chambre. Ma mère se livre au désespoir, sans oublier toutefois ni les convenances ni sa propre dignité. Je me précipitais sur mon père et l'embrassais en balbutiant « Papa, papa !» Il était étendu, immobile, roulant étrangement les yeux. Une terreur insurmontable m'ôta la respiration. Je poussais des cris d'effroi comme un oiseau qu'on aurait saisi avec rudesse. On m'entraîna hors de la chambre. Mais la veille encore, comme s'il avait pressenti sa fin prochaine, mon père m'avait caressé avec tant d'ardeur et de tristesse. On amena une espèce de médecin endormi et velu qui répandait une forte odeur d'eau-de-vie. Mon père mourut sous sa lancette. Le lendemain, je me tenais, un cierge à la main, devant la table sur laquelle on avait couché le cadavre, et j'écoutais stupidement les monotones psalmodies du chantre, interrompues de temps à autre par la voix fluette du prêtre. Les larmes coulaient sur mes joues, sur mes lèvres, sur mon col et sur ma chemise. Je regardais continuellement, je regardais fixement les visages immobiles de mon père comme si j'eusse attendu quelque chose de lui, et pendant ce temps ma mère se prosternait lentement, la face contre terre, se relevait lentement et faisait le signe de la croix en appuyant ses doigts avec force sur son front, sur ses épaules et sur son estomac. Je n'avais pas une seule idée dans la tête. J'étais complètement stupide. Pourtant, je sentais que quelque chose de terrible s'accomplissait en moi. La mort m'a regardé alors en face et m'a remarqué. Mon père mort, nous allâmes demeurer à Moscou, et cela par une raison fort simple. Tous nos biens furent vendus à l'encan pour payer nos dettes, tous absolument, à l'exception d'une petite terre, la même où se termine maintenant ma magnifique existence. Quoique je fusse encore bien jeune, alors j'avoue que la vente de notre nid me fit souffrir, ou plutôt je ne regrettais à vrai dire que notre jardin. Ce jardin se trouvait lié presque aux seuls souvenirs heureux de ma jeunesse. C'est là que, par une paisible soirée de printemps, j'enterrai un vieux chien à pattes torses, mon meilleur ami, un basset du nom de Trix. C'est là que, caché dans les hautes herbes, je mangeais les pommes volées, de ces pommes de Novgorod, vermeilles et douces. Et c'est là, enfin, qu'au milieu d'un carré de framboisiers, je vis pour la première fois une de nos femmes de chambre, Claudie, qui, malgré son écamard et son habitude de rire en s'enfonçant la face dans son mouchoir, éveilla en moi une passion si tendre que sa présence me faisait perdre la respiration et la parole. Un jour de Pâques, lorsqu'arriva son tour d'appliquer ses lèvres sur ma main seigneuriale, je me souviens que je manquais me jeter à ses pieds pour baiser ses souliers de cuir tout déformés. Est-ce possible, grand Dieu, qu'il y ait de cela 20 ans? Tant d'années se sont-elles écoulées depuis que je courais sur mon petit cheval à Lausanne, le long de la vieille haie de notre jardin, et que je me levais sur mes étriers pour arracher du peuplier blanc des feuilles à double nuance. Pendant qu'il vit, l'homme ne sent guère sa propre existence. Elle lui devient perceptible comme le son qu'à une certaine distance, après un certain temps écoulé. Oh, mon jardin! Ô sentier couvert d'herbe autour du petit étang, ô charmant recoin sablonneux sous la vieille digue, où je me livrais à la pêche des goujons et des tanches. Et vous, bouleaux, longues branches pendant à travers lesquelles m'arrivait du chemin de traverse la chanson mélancolique d'un paysan qu'interrompaient par moments les brusques chaos de sa téléga, je vous envoie mon dernier adieu. En quittant la vie, c'est à vous seul que je tends les bras. Je voudrais respirer encore une fois la fraîcheur amère de l'absinthe, la douce odeur du sarrasin coupé sur les champs de ma patrie. Je voudrais encore une fois entendre au loin le modeste tintement de la cloche fêlée de notre paroisse, m'étendre encore une fois à l'ombre du buisson de chêne sur la pente du ravin, suivre encore une fois des yeux les traces fuyantes du vent qui court en vagues sombres sur l'herbe dorée de notre prairie. Bah, à quoi bon tout cela? Je ne puis plus écrire aujourd'hui. À demain. Mars 22. Aujourd'hui, il fait de nouveau sombre et froid. Ce temps-ci me convient davantage, il est en harmonie avec mes occupations. La journée d'hier est venue réveiller mal à propos bien des sentiments et bien des souvenirs inutiles. Cela ne se répétera plus. Ces épanchements de la sensibilité rappellent l'impression que vous fait la racine de réglisse. Au premier abord, étant qu'on ne suce qu'un peu, le goût n'en est pas désagréable, mais un instant après, la bouche en est toute amère. Je vais me remettre simplement et tranquillement au récit de ma vie. Nous allâmes donc à Moscou. Mais il me vient une idée. Est-ce bien la peine de raconter ma vie? Non, décidément. Ma vie ne diffère en rien de la plupart des autres vies. La maison paternelle, l'université, le service dans les grades inférieurs, la retraite, un petit cercle de connaissances, une pauvreté honnête, des plaisirs modestes, des occupations paisibles, des désirs modérés, dites de grâce, qui donc ignore tout cela? Une autre raison pour ne pas compter ma vie, c'est que je n'écris que pour mon propre plaisir et que, si mon passé n'offre rien de particulièrement gai ou de particulièrement triste, même à mes yeux, c'est qu'en effet il ne renferme rien qui soit digne d'attention. Mieux vaut essayer de m'expliquer mon caractère. Quelle espèce d'homme suis-je? On pourra me faire observer que personne ne me le demande non plus. J'en conviens. Mais je vais mourir et il me semble que c'est un désir pardonnable que celui de vouloir apprendre avant la mort quelle sorte d'oiseau l'on a été. Ayant dûment pesé cette importante question, et n'ayant d'ailleurs nulle raison pour m'exprimer avec trop d'amertume sur mon propre compte, comme le font les gens bien convaincus de leur mérite, je commence par convenir d'une chose. J'ai été l'homme, ou si l'on veut l'oiseau, le plus superflu de ce monde. Je le prouverai demain, car aujourd'hui je tousse comme une vieille chèvre, et Thérence, ma garde malade, ne me laisse pas un instant de repos. « Couchez-vous, mon petit père, et prenez du thé, » me dit-elle. Je sais bien qu'elle me presse ainsi parce qu'elle veut du thé elle-même. Eh bien, soit. Pourquoi ne serait-il pas permis à la pauvre vieille femme de retirer tout le profit possible de son maître tant qu'il en est temps encore? Mars 23. L'hiver est revenu, la neige tombe à flocons. Superflu, de trop. C'est une excellente expression que j'ai trouvée là. Plus je pénètre dans les profondeurs de mon être, plus je regarde attentivement dans ma vie passée et plus je suis convaincu de la sévère justesse de cette expression. Superflu. C'est bien cela. Ce mot ne s'applique pas aux autres. Les hommes sont ou méchants, ou bons, ou intelligents, ou stupides, ou agréables, ou désagréables, mais superflus, non. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, le monde peut se passer de ces gens-là. Certainement. Mais la superfluité n'est pas leur signe distinctif, et en parlant d'eux, ce n'est pas le mot superflu qui vous vient tout d'abord sur les lèvres. Quant à moi, c'est tout ce qu'on peut dire. Superflu ou être surnuméraire, voilà tout. Il est évident que la nature ne comptait pas sur mon apparition, aussi m'a-t-elle traité en visiteur important et non invité. Ce n'est pas en vain qu'un plaisant grand amateur de cartes a dit à propos de moi que ma mère a fait une remise comme au Boston en me mettant au monde. À l'heure qu'il est, je parle de moi avec calme et sans aucun fiel. C'est une affaire finie. Pendant tout le cours de mon existence, j'ai trouvé ma place prise. Peut-être parce que je ne la cherchais pas là où elle devait être. J'ai été susceptible, timide et irritable comme tous les malades. Il y avait de plus en moi, probablement à cause d'un amour-propre excessif ou par suite de l'organisation défectueuse de mon être moral, un obstacle incompréhensible et insurmontable entre mes sentiments, mes idées et l'expression de ces sentiments et de ces idées. Lorsque je me décidais violemment à vaincre cet obstacle, à faire tomber cette barrière, toute ma personne prenait l'empreinte d'une tension pénible. Non seulement je paraissais affecté et guindé, je l'étais réellement. Je sentais cela et me hâtais de rentrer en moi-même. Un trouble épouvantable s'élevait alors dans mon fort intérieur. Je m'analysais jusqu'à la dernière fibre. Je me comparais aux autres, je me rappelais les moindres regards, les moindres sourires, les moindres paroles de ceux devant lesquels j'avais voulu briller, et je brûlais tout dans le mauvais sens. Je riais amèrement de ma prétention d'être comme tout le monde, et au milieu de mon rire, je m'affaissais tout à coup, je tombais dans un découragement inepte. En un mot, je m'agitais sans relâche, comme l'écureuil dans sa roue. Je passais des journées entières à ce travail infructueux et maussade. Et maintenant, dites-vous même, dites de grâce, à quoi un homme pareil peut être utile? Pourquoi en est-il ainsi de moi? Quel est le motif de ces sombres tracasseries intérieures? Mais qui le sait? Qui me le dira? Je me souviens que je pris un jour la diligence pour aller à Moscou. La route était bonne, et pourtant le postillon attela un cheval de volée de front avec les quatre autres. Misérable et parfaitement inutile, attaché n'importe comment à l'avant-train par une corde épaisse et courte qui lui coupait sans pitié la cuisse, lui frottait la queue, le forçait à courir de la façon la plus grotesque et donnait à tout son être l'aspect d'une virgule, ce misérable cheval excitait toujours ma plus profonde compassion. Je fis observer au postillon qu'il me semblait qu'on aurait pu se passer du cinquième cheval. Il secoua la tête, lui donna une dizaine de coups de fouet dans toute la longueur de son dos décharné, de son ventre bouffi, et marmotta avec une sorte d'ironie : « Oh, c'est vrai, il est de trop. » Moi aussi, je suis de trop. Le relais, heureusement, n'est plus loin. Superflu. J'ai promis de prouver la justesse de mon opinion, et je vais remplir ma promesse. Je ne crois pas nécessaire de m'arrêter à mille bagatelles aux événements et incidents de chaque jour, quoiqu'ils puissent servir, aux yeux de tout homme réfléchi, de preuves incontestables en ma faveur, ou pour mieux dire, en faveur de ma manière de me juger. Mieux vaut commencer de prime abord par le récit d'un fait assez important, après lequel il ne restera probablement plus le moindre doute au sujet de l'exactitude du mot « superflu ». Je n'ai pas, je le répète, l'intention d'entrer dans les détails, Mais je ne puis passer sous silence une circonstance assez curieuse et remarquable, l'étrange conduite de mes amis avec moi, car j'avais aussi des amis. Chaque fois que je me trouvais sur leur chemin, ou que je m'approchais d'eux, ils semblaient mal à leur aise. Ils souriaient d'un air contraint en venant à ma rencontre, fixaient leur regard non sur mes yeux ou sur mes pieds, comme le font certaines gens, mais plutôt sur mes joues. Me tendaient la main d'un air pressé et disaient d'un air pressé « Ah, bonjour, Tchulkaturin !» Le sort m'avait affublé de ce nom. Ou bien « Ah, voilà Tchulkaturin !» et s'en allait aussitôt. D'autres s'arrêtaient, même quelquefois, immobiles, comme s'ils cherchaient à se rappeler quelque chose. Je remarquais tout cela, car je ne manquais ni d'observation, ni de perspicacité. En somme, je ne suis pas bête, il me vient même parfois à l'esprit des pensées assez amusantes qui ont leur originalité. Mais en ma qualité d'homme superflu et verrouillé à l'intérieur, j'évitais constamment d'exprimer ma pensée, d'autant plus que je savais d'avance que je la rendrais fort mal. Il me semblait même parfois fort étrange d'entendre les autres parler si simplement et si librement. « Quelle hardiesse !» pensais-je involontairement. Pourtant, il faut avouer que malgré mon verrou, la langue me démangeait souvent. Mais ce n'est décidément que dans ma première jeunesse que j'arrivais à prononcer une parole. En avançant dans la vie, je parvenais presque toujours à me vaincre. Je me disais, à part moi, oh, « il vaut mieux que nous nous taisions. » Et je me calmais instantanément. Nous sommes tous habiles en silence, nous autres Russes. Mais il ne s'agit pas de cela et ce n'est pas à moi de critiquer les autres. Grâce à un concours de circonstances insignifiantes, mais importantes pour moi, il m'arriva, il y a quelques années, de passer 6 mois dans la ville de district O. Cette ville était fort accommodément bâtie sur le flanc d'une montagne. Elle contenait environ 800 habitants. La pauvreté y était extrême. Les maisons n'y ressemblaient à rien de connu. La rue principale était obstruée par-ci par-là d'immenses plaques de pierre calcaire brute qui tenaient lieu de pavés et forçaient même les télégas à un détour. Il y avait une place principale d'une malpropreté incroyable, au centre de laquelle s'élevait un petit bâtiment percé de trous sombres. Ces trous abritaient des gens à larges chapeaux qui faisaient semblant de se livrer au commerce. Là aussi figurait une haute perche bigarrée, près de laquelle on avait placé par ordre, sur l'invitation des autorités, une charrette de foin jaunâtre, autour de laquelle rôdait une poule appartenant au gouvernement. Pour tout dire, on vivait misérablement dans cette ville d'O. Dès les premiers jours de mon séjour, j'ai failli devenir fou d'ennui. Je dois ajouter que, quoique je sois certainement un homme de trop, ce n'est pas que je l'ai voulu ainsi. Je suis malade moi-même, mais je déteste tout ce qui est malsain. Je n'ai pas fui le bonheur, j'ai même essayé de l'atteindre en prenant à droite et à gauche. Aussi n'est-il pas étonnant que j'ai la faculté de m'ennuyer comme tout autre mortel. C'était des affaires de service qui m'avaient amené dans la ville d'O. Terence a décidément juré de me faire mourir. Voici un échantillon de notre conversation. Terence. « Mon Dieu, petit père, qu'écrivez-vous donc toujours là ? Cela ne vous vaut rien d'écrire ainsi. » Moi. Mais, Terence, je m'ennuie. Prenez une tasse de thé, couchez-vous. Dieu fera en sorte que vous transpiriez, que vous dormiez un peu. Mais je n'ai pas envie de dormir. Oh, petit père, pourquoi parler ainsi ? Que le Seigneur vous bénisse. Couchez-vous, couchez-vous. C'est ce que vous pouvez faire de mieux. « Je mourrai de toute façon, Terence. Que Dieu vous bénisse, vous dis-je. Eh bien, faut-il vous donner du thé? Mais je n'ai plus une semaine à vivre, Thérence. Hi, hi, petit père, que chantez-vous là? Je vais préparer le samovar. Oh, créature décrépite, jaune et édentée, se peut-il que je ne sois pas un homme, même pour toi? Mars 24, gelée aiguë. Le jour même de mon arrivée dans la ville d'O, les affaires de service dont j'ai parlé plus haut me forcèrent de me rendre chez un certain Ojogin Cyril Matveïtch, un des plus importants employés du district, dont je fis la connaissance, ou plutôt dont je me rapprochais au bout de 2 semaines. Sa maison était située dans la principale rue et se distinguait de toutes les autres par un toit coloré et les 2 lions qui gardaient la porte. Ces lions étaient de l'espèce de ceux qu'on voit aux portes cochères à Moscou et qui ressemblent même à des chiens fantastiques. Ces lions seuls suffisaient à prouver l'opulence d'Ojogin, et il avait en effet 400 âmes, recevait la meilleure société d'eau et passait pour être hospitalier. Le préfet de la ville, homme d'une obésité peu commune et qui semblait avoir été taillé dans un ballon avarié, se rendait chez lui dans un large drotchki à 2 chevaux. Il recevait aussi les autres employés, le procureur, créature bilieuse et méchante, l'arpenteur, grand diseur de bons mots, d'origine allemande et à figure tartare, l'officier des ponts et chaussées, âme tendre, bon chanteur mais mauvaise langue, l'ex-chef du district, individu à cheveux teints, à chemise fripée, et à pantalon étroit. Celui-ci était doué de cette expression grandiose de physionomie particulière aux gens qu'un jugement a convaincu de pécula. On trouvait encore chez Ojogin 2 propriétaires, amis inséparables, tous les 2 vieux et cassés, dont le plus jeune cherchait constamment à humilier l'autre en lui fermant la bouche à tout propos avec ce seul et même reproche. « Allons, Serge Sergeyevitch, finissez donc. Où voulez-vous en venir? Vous qui écrivez bouchon avec un P. Oui, monsieur, continuait-il en s'adressant avec indignation à ceux qui l'écoutaient. Serge Sergeyevitch n'écrit pas bouchon, mais pouchon. » Et tous les assistants de rire, quoiqu'aucun d'eux probablement ne fût très compétent en fait d'orthographe, tandis que le malheureux Serge Sergeyevitch se taisait, baissait la tête et souriait d'un air résigné. Ah, mais j'oublie que mes jours sont comptés et que je me lance dans une description trop détaillée. Ainsi donc, sans plus long détour, Ojogin était marié. Il avait une fille nommée Elisabeth Cyrilovna et je m'épris de cette jeune fille. Ojogin n'était ni bon ni mauvais, c'était un homme comme on en voit tant. Sa femme, oh, j'oserais la nommer une vieille volaille. Mais la fille ne tenait nullement de ses parents. Elle était jolie de figure, d'un caractère enjoué et modeste. Ses yeux gris regardaient avec bonté et candeur sous des sourcils constamment relevés comme ceux des enfants. Elle souriait presque toujours et riait fort souvent. Sa voix fraîche avait un timbre agréable. Ses mouvements étaient libres et rapides. Elle rougissait facilement et joyeusement. Ses toilettes n'étaient pas toujours de bon goût. Il n'y avait guère que les robes simples qui lui allassent bien. J'étais en général peu prompt à faire connaissance. Je n'avais surtout aucune habitude du commerce des femmes, et quand il m'arrivait de me trouver en leur présence, je me mettais à froncer le sourcil et à prendre un air farouche, ou bien je bégayais niaisement et tournais avec embarras ma langue dans ma bouche. Mais ce fut le contraire qui eut lieu avec Elisabeth Cyrilovna. Je me sentis à mon aise dès la première fois. Voici comment la chose m'arriva. J'allais un jour chez Ojogin avant l'heure du dîner, et demandai s'il était chez lui. Il y est, me répondit-on, mais il s'habille, veuillez passer dans le salon. J'y entrai en regardant autour de moi. J'aperçus, près de la fenêtre, une jeune fille en robe blanche qui me tournait le dos. Elle tenait une cage dans ses mains. Je me sentis troublé comme à l'ordinaire. Je me remis cependant et toussais pour avoir une contenance. La jeune fille se retourna si vivement que ses boucles de cheveux lui frappèrent le visage. Elle m'aperçut, s'inclina et me montra en souriant une petite boîte à moitié remplie de graines de chènevis. « Vous permettez ?» me dit-elle. Moi, tout naturellement, et comme cela se fait en pareille occurrence, j'inclinai d'abord la tête, puis je souris, levai la main en l'air et l'agitai deux fois avec grâce. La jeune fille se détourna aussitôt, enleva la petite planchette de la cage, se mit à la gratter fortement avec un couteau et, sans changer de place, elle prononça les paroles suivantes. « C'est le bouvreuil de papa. Aimez-vous les bouvreuils ?»« Je préfère les serins, » répondis-je, non sans un certain effort. « Ah, moi aussi, j'aime les serins. Mais regardez donc comme il est gentil, voyez, il n'a pas peur. » J'étais surpris de n'avoir pas peur moi-même. « Approchez-vous, il s'appelle Popka. » Je m'approchai et me penchai sur la cage. « Il est gentil, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers moi. Nous étions si près l'un de l'autre qu'elle fut obligée de renverser un peu la tête pour me regarder avec ses yeux brillants. Je la contemplai. Tout son jeune visage vermeil s'illumina d'un sourire si affectueux que je souris à mon tour et faillis même rire de plaisir. La porte s'ouvrit. Monsieur Ojogin entra. Je m'y mis aussitôt à causer très librement avec lui, et je ne sais comment cela se fit. Je restai à dîner et passai toute la soirée chez eux. Le lendemain, le laquais d'Ojogin, pauvre diable efflanqué et presque aveugle, me souriait déjà comme à un ami de la maison en me débarrassant de mon manteau. Trouver un refuge, se faire un nid même temporaire, connaître le charme tranquille des habitudes et des rapports journaliers, c'était un bonheur que moi, homme de trop et sans souvenir de famille, je n'avais jamais éprouvé jusqu'alors. S'il était possible que quelque chose en moi pût faire songer à une fleur, et si cette comparaison n'était déjà si usée, je pourrais me résoudre à dire que de ce jour-là, mon âme s'épanouit. Un changement instantané sembla se faire en moi et autour de moi. Toute ma vie fut illuminée par l'amour, oui, ma vie entière, jusqu'au moindre détail, ainsi qu'une chambre sombre et abandonnée dans laquelle aurait subitement pénétré la lumière. Je me levais et me couchais, je déjeunais, je fumais ma pipe autrement que par le passé. Je sautillais même en marchant, oui, vraiment, je sautillais, comme s'il m'était tout à coup poussé les ailes aux épaules. Je me rappelle que je n'eus pas un seul instant de doute au sujet du sentiment que m'inspira Elisabeth Cyrillovna. Je fus passionnément amoureux d'elle dès le premier jour, et je sus dès le premier jour que j'étais amoureux d'elle. Pendant 3 semaines, je ne cessais de la voir. Ces 3 semaines furent le temps le plus heureux de ma vie. Mais c'est un souvenir qui me pèse. Je ne puis penser à ces 3 semaines sans songer involontairement à ce qui arriva ensuite et sans qu'une amertume empoisonnée ne pénètre ce cœur qui allait s'attendrir. Lorsqu'un homme heureux est complètement sain d'esprit et de cœur, on sait que son cerveau travaille peu. Un sentiment calme et serein, le sentiment de la satisfaction, s'empare de tout son être, il en est envahi. La conscience de sa personnalité lui échappe. Il nage dans la béatitude, disent les mauvais poètes. Mais lorsque ce charme s'évanouit enfin, l'homme éprouve quelquefois un certain dépit, presque un regret de s'être si peu observé au milieu de son bonheur, de n'avoir pas appelé la réflexion et le souvenir à son aide, pour prolonger et doubler ses jouissances, comme si, dans la béatitude, l'homme pouvait trouver qu'il valut la peine de réfléchir sur ses sentiments. L'homme heureux est comme une mouche au soleil. Aussi m'est-il presque impossible, lorsque je me rappelle ces 3 semaines, de retenir dans mon esprit une impression exacte et définie. Cela me réussit d'autant moins que, s'il ne se passa rien de particulièrement remarquable entre nous pendant tout ce temps, ces 20 jours m'apparaissent comme quelque chose de chaud, de jeune et de parfumé, comme un rayon lumineux dans ma vie mate et décolorée. Ma mémoire ne devient tout à coup inexorablement précise et sûre qu'à compter du moment où, pour employer encore les expressions de ces mêmes mauvais poètes, les coups du sort s'abattirent sur moi. Et pourtant, ces 3 semaines ont laissé en moi quelque empreinte. Lorsqu'il m'arrive parfois de réfléchir longuement sur cette époque, certains souvenirs se dégagent soudain des ténèbres du passé, pareils aux étoiles que le regard fixement tendu découvre inopinément au milieu du ciel nocturne. J'ai conservé surtout le souvenir d'une promenade à travers le bois qui se trouve derrière la ville d'Eau. Nous étions 4, la vieille Ojoguine, Lise, moi et un certain Besbionkov, dont j'aurai encore à parler, employé inférieur, domicilié à Eau, petit homme blondasse, paisible et bon. Monsieur Ojoguine était resté chez lui. Il s'était donné une migraine à force de dormir. La journée était magnifique, chaude et pure. Les Russes ne sont pas en général grands amateurs de jardins de plaisance ou de promenades publiques. Quelle qu'en soit la raison, on rencontre rarement âmes qui vivent dans ces soi-disant jardins publics. Une vieille femme vient de temps en temps s'asseoir, en gémissant sur un banc de gazon bien rôti au soleil, près duquel s'élève un chétif arbuste. Si pourtant il se trouve aux environs de la ville un maigre petit bois de bouleaux, les marchands et quelquefois les employés aiment à s'y transporter les dimanches et les jours de fête. Ils emportent avec eux des samovars, des gâteaux et des melons d'eau, et après avoir étalé toutes ces friandises sur l'herbe poussiéreuse qui borde la grande route, ils s'assoient tout alentour, boivent et mangent jusqu'au soir à la sueur de leur front. Il existait justement un petit bois semblable à 2 verstes de la ville d'Eau. Nous y allâmes un peu après le dîner. Besbionkov offrit son bras à la vieille Ojoguine, je donnai le mien à Lise. Le jour était déjà sur son déclin. C'était le temps de la première ferveur de mon amour, pour nous nous connaissions à peine depuis 15 jours. Je me trouvais dans cet état d'adoration passionnée et attentive où toute notre âme suit innocemment et involontairement les moindres mouvements de l'être aimé, où nous ne pouvons nous rassasier de sa présence ni assez entendre sa voix, où nous regardons autour de nous et sourions comme un enfant en convalescence, où tout homme, quelque peu expérimenté, doit reconnaître à 100 pas et à première vue ce qui se passe en nous. Il ne m'était pas arrivé jusqu'à ce jour de donner le bras à Lise. Nous marchions côte à côte, foulant doucement l'herbe verte. Une légère petite brise voltigeait autour de nous à travers les troncs blanchâtres des bouleaux et me jetait parfois le ruban du chapeau de Lise au visage. Je suivais obstinément son regard jusqu'au moment où elle se tournait enfin gaiement vers moi, et nous nous mettions à nous sourire l'un à l'autre. Les oiseaux semblaient nous gazouiller leur approbation, Le ciel bleu nous contemplait avec tendresse à travers le feuillage menu et transparent. L'excès du bonheur me donnait le vertige. Je me hâte de faire observer que Lise n'était aucunement éprise de moi. Je lui plaisais, elle n'était pas sauvage de nature, mais ce n'est pas à moi qu'il était donné de troubler sa placidité enfantine. Elle se suspendait à mon bras comme à celui d'un frère. Elle venait d'entrer dans sa 17e année. Et cependant, ce soir-là même, commença devant moi cette douce fermentation intérieure qui précède la transformation de la jeune fille en femme. Je fus témoin de cette transfiguration, de cette incertitude innocente, de cette méditation inquiète. Je fus le premier à remarquer cette subite mollesse du regard, cette inégalité dans les sons de la voix et, ô pauvre niais, homme de trop sur la terre, je n'eus pas honte de supposer pendant toute une semaine que j'étais moi la cause de ce changement. Il y avait longtemps que nous nous promenions. Le soir était venu, nous nous parlions peu. Je me taisais, comme le font tous les amoureux qui ont peu d'expérience, et elle faisait de même, probablement, parce qu'elle n'avait rien à me dire. Mais elle paraissait absorbée par une pensée secrète et secouait la tête d'une façon toute particulière, en mordillant d'un air rêveur une feuille qu'elle venait de cueillir. Elle se mettait par moments à marcher en avant d'une manière résolue, puis s'arrêtait tout à coup, m'attendait et regardait autour d'elle en souriant d'un air distrait. La veille, nous avions lu ensemble Le prisonnier du Caucase. Avec quelle avidité elle m'avait écouté tout en tenant son visage dans ses deux mains et sa poitrine appuyée contre la table. Je me mis à lui parler de cette lecture. Elle rougit, me demanda si, avant de partir, j'avais donné de la graine de chènevis à son bouvreuil, entonna à haute voix une romance et retomba subitement dans le silence. Le bois s'adossait d'un côté à un escarpement roide et élevé, une petite rivière sinueuse coulait au-dessous, et au-delà de la rivière, s'étendait une vaste prairie qui, tantôt ondulait légèrement, et tantôt devenait unie comme une nappe. Des ravins l'entrecoupaient çà et là. Nous étions arrivés les premiers, Lise et moi, sur la lisière du bois. Belsmionkov était resté en arrière avec la vieille Ojogin. Nous sortîmes du fourré, nous nous arrêtâmes et tous les deux nous fûmes forcés de cligner des yeux. Juste en face de nous, le soleil se couchait, sanglant et superbe, au milieu d'un nuage incandescent. Une moitié du ciel était embrasée. Des rayons empourprés tombaient obliquement sur les prairies, jetaient un reflet vermeil jusque sur la partie des ravins déjà couverte d'ombre, et s'étendaient en jets de plomb fondu sur la petite rivière aux endroits où elle ne se cachait pas sous les arbrisseaux penchés sur ses rives, et allait donner d'aplomb sur le flanc de l'escarpement et sur le rideau serré du bois. Nous restions immobiles, enveloppés d'une lueur ardente. Je ne suis pas en état de rendre toute la solennité passionnée de ce tableau. On dit que pour un aveugle, la couleur rouge correspond au son des trompettes. Je ne saurais dire à quel point la comparaison est exacte. Mais il y avait réellement quelque chose d'impérieusement éclatant, comme un appel suprême, dans ce torrent d'or flamboyant, dans ce vaste embrasement du ciel et de la terre. Je jetai un cri d'enthousiasme et me tournai aussitôt vers Lise. Elle tenait les yeux fixés droit sur le soleil. Je me rappelle qu'il se reflétait dans ses yeux en petits points lumineux. Elle était touchée et profondément émue. Elle ne répondit pas à mon exclamation, mais resta longtemps immobile, la tête baissée. Je lui tendis la main. Elle se détourna et se mit tout d'un coup à pleurer. Je la regardais avec une incertitude secrète et presque joyeuse. La voix de Bespionkov retentit à deux pas de nous. Lise essuyait rapidement ses larmes et me regarda avec un sourire indécis. Madame Ojogine sortit du bois, appuyée sur son cavalier. Ils s'arrêtèrent à leur tour pour admirer ce magnifique tableau. La vieille dame fit une question à sa fille, et je me rappelle mon tressaillement involontaire quand la voix de Lise résonna avec une vibration cristalline en répondant à sa mère. Le soleil s'était couché pendant ce temps et l'incendie du soir commençait à s'éteindre. Nous retournâmes sur nos pas. Je repris le bras de Lise. Il faisait encore assez clair dans le bois et je pouvais distinguer ses traits. La rougeur qui s'était répandue sur tout son visage n'avait pas encore disparu. Elle semblait être encore enveloppée des rayons du soleil couchant. Son bras effleurait à peine le mien. Je fus longtemps avant d'oser parler, tant mon cœur battait fortement. Une voiture apparut dans le lointain à travers les arbres. C'était le cocher qui venait à notre rencontre, au pas, sur la route sourde et sablonneuse. « Elisabeth Cyrillovna, dis-je enfin, mais pourquoi donc pleuriez-vous ? « Je le sais, » répondit-elle après un instant de silence. Elle fixa sur moi ses yeux encore humides de larmes. Son regard me parut transformé. « Je vois que vous aimez la nature, » repris-je. Ce n'était pas là du tout ce que j'avais voulu dire, et j'eus de la peine à balbutier la fin de cette phrase. Elle secoua la tête. Je n'étais plus en état de prononcer une syllabe. J'attendais je ne sais quoi. Était-ce un aveu, allons donc? Non, j'attendais un regard confiant, une question. Mais Lise tenait les yeux baissés et se taisait. Je répétais encore à demi-voix, mais pourquoi? Et restais sans réponse. Je voyais qu'elle était gênée et presque honteuse. Un quart d'heure après, nous étions assis tous les quatre dans la voiture et nous nous approchions de la ville. Les chevaux couraient d'un trot régulier. Nous roulions rapidement à travers l'air frais et obscur. Je me mis à causer, m'adressant toujours soit à Bespionkov, soit à Madame Ojogine. J'évitais de tourner les yeux vers Lise, mais je pouvais remarquer qu'enfoncée dans un coin de la voiture, ses regards erraient çà et là, et ils s'arrêtèrent plus d'une fois sur moi. Arrivée à la maison, elle reprit son empire sur elle-même, mais elle ne voulut cependant pas continuer notre lecture et alla se coucher de bonne heure. La crise, cette crise dont j'ai parlé, venait de s'accomplir en elle. Elle avait cessé d'être une enfant, elle aussi commençait à attendre, comme moi. Elle n'attendit pas longtemps. Je rentrais ce soir-là avec un enchantement dans le cœur, quelque chose de vague qui avait germé en moi comme un pressentiment, comme un soupçon, s'évanouit soudain. Je mis sur le compte de la pudeur virginale et de la timidité cette subite contrainte que j'avais remarquée dans la manière d'être de Lise vis-à-vis de moi. N'avais-je pas lu mille fois, et dans beaucoup d'ouvrages, que la première apparition de l'amour trouble et effraie une jeune fille? Je me sentais excessivement heureux et me livrais déjà à toutes sortes de projets. Si quelqu'un m'avait alors dit à l'oreille, « Mais tu fais fausse route, l'ami. Ce n'est pas là ce qui t'attend, frère. Ce qui t'attend, c'est la mort dans l'isolement sous le toit d'une vilaine maison délabrée, au bruit des gronderies insupportables d'une vieille mégère qui guette impatiemment ta dernière heure afin de vendre tes dernières bottes. Oui, je me sens malgré moi porté à répéter, avec un grand philosophe russe, comment savoir ce qu'on ne sait pas ? À demain.